Aujourd'hui, une prédication légèrement plus courte, à cause des conditions qui ne favorisent pas, il faut l'avouer, des moments qui traîneraient en longueur. Néanmoins, une prédication, c'est une prédication. Des textes du jour, chaque année, à cette période, nous invitent à déchiffrer le rapport qu'il y a entre Jean le Baptiseur et Jésus, entre celui qui est présenté comme le précurseur et celui qui est présenté comme celui qu'on attendait. Je ne vais pas y revenir cette fois. Je tente en fait de rompre la malédiction de ces textes qui, vous le savez peut-être, réapparaissent tous les 3 ans et en plus autour de Noël, le risque de répétition est encore plus fort. Aujourd'hui, je vais simplement me concentrer sur cette annonce de Jean que vous avez entendue qui dit « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit » ou une autre traduction que vous connaissez « Où il vous baptisera du souffle sacré ». En tout cas, c'est de cette façon-là que l'entendaient éventuellement les gens qui entendaient ces paroles à cette époque-là. Non pas Esprit Saint, mais souffle sacré ou souffle saint. Il vous baptisera de ce souffle-là, de cet esprit éternel. Esprit et souffle, c'est le même, ça correspond au même mot en grec. Il vous baptisera de ce souffle-là, de cet esprit éternel, souvenez-vous, ce souffle qui planait au-dessus des eaux au moment poétique, moment poétique au sens étymologique strict du terme en grec, mais aussi très artistique, à savoir le moment de la création. Beaucoup dans ce temple, et sans doute beaucoup aussi parmi ceux qui nous écoutent sur Internet, peut-être qu'ils nous écoutent dans 2 ou 3 ans d'ailleurs, et je m'adresse à eux, si vous nous écoutez dans 3 ans, envoyez un message qui sera, je le suppose, bien reçu, et c'est ma forme d'espérance aujourd'hui, 3 ans avant. C'est fascinant. Oui, je vous le dis, j'enregistre exceptionnellement cette prédication. Donc, beaucoup d'entre nous avons été baptisés d'eau, avec de l'eau. Certains en ont un souvenir, d'autres n'en ont aucun souvenir parce qu'ils étaient vraiment tout petits au moment de leur baptême, avec de l'eau. Certains aussi s'en souviennent maintenant, mais auront oublié après qu'ils auront eu 3 ans, dit-on. Chaque personne a sa façon de comprendre la signification du baptême d'eau, mais aussi chaque tradition ou ramification chrétienne accentue une compréhension ou une autre de ce baptême avec de l'eau. C'est un plongeon dans la mort pour se relever à la vie nouvelle. C'est un rite de passage quand c'est administré en tant qu'adulte. C'est un simple bain de purification. C'est une marque pour faire partie d'une fraternité. Toutes ces significations peuvent se compléter. Mais qui d'entre nous a été baptisé de l'esprit, du souffle, ou plus littéralement en grec, dans le souffle, dans l'esprit? Et pour le coup, qui donc pourrait y faire référence pour lui, pourrait évoquer ce que c'est pour lui ou devrait être pour les autres, ou pourquoi pas, pourrait en témoigner. Oui, je sais, à de trop jeunes catéchumènes, quelques pasteurs consciencieux ont bien expliqué que leur confirmation était le moment de ce baptême dans l'esprit, parce que oui, dans la Bible, c'est l'esprit qui confirme, ce n'est pas le catéchumène qui confirme. Mais ça, tout le monde ne le pense pas et ne le pratique pas comme ça. Mais c'est littéralement comme ça que ça se passerait. Mais combien, pour employer un langage de jeune et donc apparaître comme vieux, combien ont capté? En vieux français, ça veut dire « s'en sont rendus compte ». Et pour combien d'entre eux cela a-t-il été vrai? Qui a vraiment écouté? Jean, le pasteur consciencieux? En fait, c'est de plus en plus dur, paraît-il, d'écouter Et je me suis rappelé une phrase d'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais n'abusons pas de citations bibliques. Écoutez, non pas le pasteur consciencieux qui essaie de trouver de la signification à des pratiques qu'inexorablement, semble-t-il, une société oublie sans s'en apercevoir, mais écoutez l'esprit, le souffle qui veut insuffler de sa force en celui ou celle qui est en train de vivre son moment d'engagement. C'est un peu dommage, à mon sens, que les églises traditionnelles classiques aient abandonné l'idée même de ce baptême dans l'esprit et ont délaissé ce truc qui les embarrassait finalement. Qui les embarrassait. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est le seul rituel qui se passe de personnel religieux ou d'institution ou de temple ou de finances. Le seul qui n'est défini par rien, le seul qui n'a aucune correspondance liturgique, une pratique qu'il est difficile d'encadrer ou de superviser, une pratique qui invite celui ou celle qui est baptisé à se sentir libre d'interpréter, une pratique qui le rend majeur, mais aussi une pratique qui peut déborder. C'est ça le problème. Les églises dites historiques, comme la nôtre, ou les luthériens ou les catholiques, auraient donc jugé, sans faire exprès, hein, bien sûr, ce baptême dans l'esprit incontrôlable, et l'auraient donc mis à la marge de leur ecclésiologie, ce que n'ont du coup pas fait d'autres églises, des églises dites de réveil. C'est un mot qui fait un peu 19e siècle, le réveil, je trouve. Mais... comme les églises pentecôtistes ou d'autres mouvements appelés charismatiques, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient protestants. Certaines, d'ailleurs, de ces dénominations, de ces églises, y réussissent très bien à concilier la vie institutionnelle, normale, communautaire, la vie courante, quoi, d'une église, et la vie profuse, la profusion spirituelle. La plupart des assemblées de Dieu, qui sont pentecôtistes, y arrivent à mon sens. Mais dans certains mouvements, ce baptême, dans l'esprit, apparaît comme un vaccin. Pas forcément obligatoire, comme le vaccin que vous allez bientôt subir, je suis pour. Le problème n'est pas là. C'est juste l'art de la métaphore. Bon. Pas forcément obligatoire, naturellement, mais en tous les cas nécessaire, on va vous dire, si jamais on veut exister dans ces églises, si jamais on veut y franchir des frontières dans ces églises, monter dans le commandement de ces églises, participer à ceci ou cela, ne pas rester en marge d'une assemblée ou devenir pasteur dans ces églises-là. Malgré ces dérives, il est tout de même triste d'avoir abandonné la moitié du sens du baptême, car c'est ça dont il s'agit. Le baptême, c'est l'eau et le souffle. Pour illustrer, et attention, une nouvelle métaphore, je dirais que la référence à la vie organique, vous savez, la vie organique, c'est ce qui permet que s'ancrent tous nos rites liturgiques, le pain, le vin, et j'en passe. Enfin, je ne vais pas faire la liste ici. Cette référence qui fait que nos rites et pratiques apparaissent clairs pour tout un chacun, car ça parle en fait de leur vie. Ce n'est pas très éloigné de la vie normale, courante. Le baptême d'eau, c'est un bain. La scène, c'est évidemment un repas, etc. Cette référence, c'est en quelque sorte brisée en plein mouvement. Et je continue à filer cette métaphore difficile. Après avoir été plongé pendant 9 mois dans quelque chose comme de l'eau, le bébé arrive chez nous. Il sort la tête de l'eau, mais, horreur, il ne prend pas sa respiration. Il ne prend pas son souffle. Il n'inspire pas. Oh certes, Cela devrait être un drame pour ce bébé et sa famille, mais voilà, ce bébé, qui n'est qu'une métaphore, reste vivant. Sauf qu'il ne respire pas. Étonnant, paradoxal, impossible. Est-il vivant ? Pourtant, c'est ce que notre Église, en gros, semble dire, mais sans doute je vais un peu loin, si on continue à filer la métaphore existentielle, que nous n'aurions pas besoin d'inspiration pour vivre. Bien sûr que c'est faux, mais en tous les cas, c'est ce que nous disons en marginalisant le baptême de l'Esprit, et c'est pourquoi parfois on se fait traiter d'Église morte vivante. À tort, mais avouez qu'on y prête un peu notre flanc. À ce propos d'ailleurs, à propos de prêter son flanc ou sa joue, il ne faut pas tendre sa joue gauche avant d'avoir été frappé. Car ce baptême, dans le souffle de Dieu, c'est quand même très biblique. Lui, il vous baptisera de l'Esprit, dit Jean. Et puis, Jésus lui-même a été baptisé du même Esprit. Et Jésus, dans l'évangile de Jean cette fois, a aussi baptisé de son souffle des disciples qui étaient apeurés avant. Et puis, au moment évidemment de la Pentecôte chrétienne, on rappelle à tout le monde, chaque année, pas vraiment en 2020 hélas, que l'Esprit, le souffle de Dieu, a baptisé tout le monde. Que c'est ce souffle qui fait que justement on trouve la force d'annoncer l'Évangile. Et puis c'est fini, pour un an. Je ne comprends pas ce phénomène qui s'apparente à un abandon. Ou alors, est-ce de la pudeur ? Peut-être que je suis aveugle, moi, et que tout le monde a fait cette expérience, mais n'en parle jamais. Mais mon intuition, malgré tout, est qu'il manque quelque chose à une Église, y compris libérale comme la nôtre, quand elle prétend ne pas vouloir être pratiquante du baptême dans l'Esprit. Alors vous aurez peut-être des questions légitimes. D'abord, ça consiste en quoi le baptême de l'Esprit ? À cela, je ne peux déjà que dire que ce baptême ne se demande pas précisément, il ne se demande pas institutionnellement, comme on s'approche de l'Église pour demander pour ses enfants le baptême d'eau. Malgré tout, ce baptême se désire. Et tout à coup, il peut survenir, sous une forme qui sans doute appartient à chacun. Autre question légitime. Qu'est-ce que vous en savez, pasteur ? Avez-vous été baptisé dans l'Esprit vous-même ? Bien sûr. Sinon, comment pensez-vous que je tiendrai dans mon ministère avec juste ma foi ? Avec pas trop d'ambition institutionnelle, ou carriériste, voire universitaire, et une prédication à faire chaque dimanche, depuis 30 ans ? Comment je tiendrai, et ce jeu, j'ai envie de vous le déployer pour vous aussi, comment je tiendrai sans inspiration ? Ce qui ne m'empêche pas de me considérer comme libre ou libéral, et je crois même que l'Esprit aide à ne pas se retrouver fasciné par la lettre et aide à se moquer des débats littéraux. Envoie un peu d'humour, non pas sur la triste réalité, mais sur la triste littéralité. Mais je n'en dirai pas plus. Je ne peux pas en dire plus. Chacun son baptême dans l'Esprit. Et ce n'est pas une expérience facilement communicable. Et surtout, cela n'a aucune valeur de distinction ou de privilège. Juste, il m'était nécessaire d'évoquer ce désir du baptême du souffle dans ce moment précis où l'Église en général, et la nôtre aussi, mais aussi toute la société, société c'est un vieux mot pour dire fraternité confuse et ignorée comme telle. Tout le monde a besoin d'un nouveau souffle, après avoir été plongé dans la maladie, dans la peur palpable de la mort pour n'importe qui, n'importe quand. Mon seul message ce matin, ou dans 3 ans, c'est pensez-y. Pensez à Jean le Baptiste qui dit, lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint, dans le souffle sacré. Juste pensez-y. Ce n'est pas anecdotique du tout dans le Nouveau Testament, et encore moins dans le développement du mouvement des premiers croyants au Christ. Je ne peux pas faire grand-chose de plus que d'essayer de vous y faire penser. Et pour paraphraser Jean le Baptiste, moi, au fond, je ne peux que vous baptiser avec de l'eau. Mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Amen.